sur les flots de la mer cylindrique. Une autre surprise les attendait au pied de l'escalier. Au premier abord, il semblait que quelque chose avait sillonné le camp, mettant sans dessus-dessous les équipements et rassemblant les objets de moindre dimension pour les emporter plus loin. Leur alarme fut de courte durée. Une rapide inspection n'en laissa subsister qu'embarras et contrariété. Seul le vent était coupable. Bien que, avant de partir, ils eussent arrimé tous les objets mobiles, quelques câbles avaient dû se rompre sous l'assaut de la violence extrême des rafales. Il leur fallut plusieurs jours avant de remettre la main sur leurs biens dispersés. Hormis cela, rien n'avait notablement changé. Le silence même de Rama était revenu, passé l'accès tempétueux du printemps. Là-bas, au bord de la plaine, une mer calme attendait de connaître son premier vaisseau depuis 1 million d'années.
« Ne doit-on pas baptiser un bateau neuf avec une bouteille de champagne ?
Même si nous en avions à bord, je n'autoriserai pas un gâchis aussi criminel. De toute façon, il est trop tard. Le machin est déjà lancé. »
La preuve est faite qu'au moins ça flotte. T'as gagné ton pari, Jimmy. Te réglerai ça quand nous serons de retour sur Terre.
Il lui faut un nom. Tu as une idée ?
L'objet de ces commentaires mitigés se laissait bercer par la houle à côté de l'escalier qui pénétrait dans la mer cylindrique. C'était un petit radeau fait de 6 barils vides et maintenu par une légère armature de métal. Sa construction, son assemblage au camp Alpha et son acheminement au moyen de chariots démontables sur plus de 10 kilomètres de plaine avaient mobilisé pendant plusieurs jours toutes les énergies de l'équipage. Le jeu avait intérêt à en valoir la chandelle. Le résultat était à la mesure du risque. Les énigmatiques tours de New York, scintillantes à plus de 5 kilomètres de distance dans la lumière sans ombre, les provoquaient depuis leur arrivée dans Rama. Personne ne doutait que la cité, ou quoi que ce fût d'autre, constituât réellement le cœur de ce monde. Quitte à ne rien faire d'autre, ils iraient à New York.
« Nous n'avons toujours pas de nom, capitaine. Qu'en pensez-vous ? »
Norton éclata de rire et soudain sérieux dit
« Je vous en ai trouvé un. Appelez-le Resolution.
Pourquoi ?»
C'était un des vaisseaux de Cook. C'est un bon nom, pourvu que votre embarcation en soit digne. Il y eut un silence méditatif, puis le sergent Barnes, sur qui avait reposé en grande partie la conception du radeau, demanda 3 volontaires. Tous ceux qui étaient présents levèrent la main.
« Désolé, nous n'avons que 4 gilets de sauvetage. Boris, Jimmy, Peter, vous avez tous un peu navigué. Nous allons faire un essai. »
Personne ne trouva extraordinaire qu'un simple sous-officier prit la direction des opérations. Ruby Barnes était la seule à bord à posséder un brevet supérieur de navigation, ce qui réglait le problème. Elle avait sillonné le Pacifique en trimaran de compétition, et il semblait peu vraisemblable que quelques kilomètres d'une mer d'huile fussent un défi sérieux à ses compétences. Au premier regard qu'elle avait jeté sur cette mer, elle s'était promis d'en faire la traversée. Rien, dans l'histoire plusieurs fois millénaire des rapports de l'homme et de la mer, n'approchait l'étrangeté de cette expérience. Depuis quelques jours, une petite phrase bête et butée parasitait ses pensées et ne décrochait pas.
« Si l'on naviguait sur la mer cylindrique. »
Et c'était précisément ce qu'elle allait faire. Ses passagers se placèrent sur leur siège baquet improvisé, et Ruby ouvrit les gaz. Les 20 kilowatts du moteur se mirent à ronronner. Les chaînes du système de démultiplication ne furent plus que de minces traits de brouillard, et la Resolution fendit les flots sous les vivats des spectateurs. Ruby avait espéré atteindre, compte tenu de sa charge, les 15 kilomètres à l'heure, mais elle s'estimerait satisfaite si la vitesse ne tombait pas en dessous de 10 à l'heure. Un trajet d'un demi-kilomètre avait été mesuré le long de la falaise et elle avait parcouru l'aller et retour en 5 minutes et demie. Compte tenu du retard dû au demi-tour, cela donnait 12 kilomètres à l'heure. Elle s'en trouvait parfaitement heureuse. Sans moteur, mais avec 3 énergiques rameurs qui soutiendraient son coup d'aviron plus expert, Ruby pouvait obtenir encore une vitesse 4 fois moindre. Donc, même si le moteur lâchait, elle pouvait rejoindre le rivage en quelques heures. Les piles à haut rendement pouvaient fournir une énergie suffisante pour faire le tour de ce monde. Et, pour plus de sûreté, elle emportait 2 éléments de rechange. Le brouillard s'était complètement évaporé, et Ruby, malgré sa prudence de vieux loup de mer, s'apprêtait à prendre la mer sans même une boussole. Elle salua vivement en posant le pied à terre.
« La Resolution vient de réussir son premier voyage en mer. Nous attendons vos ordres, monsieur. »«
Très bien, amiral. Quand serez-vous prêt pour la traversée ?»«
Dès que les vivres seront embarqués et que l'officier de port nous donnera le signal du départ. »
Soit, nous partirons à l'aube.
Bien, capitaine.
Sur une carte, 5 kilomètres d'eau n'ont l'air de rien. Autre chose est de s'y retrouver réellement. Alors qu'ils ne voguaient que depuis 10 minutes, les 50 mètres d'escarpement de la falaise du continent nord semblaient déjà extraordinairement loin. Mais, non moins mystérieusement, New York semblait à peine plus proche que tout à l'heure. La plupart du temps, cependant, leur attention n'allait pas à la terre, absorbée qu'ils étaient par le spectacle fascinant de la mer. C'en était fini des plaisanteries crispées qui avaient ponctué le début de la traversée. Cette expérience, ils la ressentaient dans sa stupéfiante nouveauté. Chaque fois qu'il avait l'impression de s'être fait à ramas, pensa Norton, quelque miracle inédit se produisait. La Resolution poursuivait son avance bourdonnante, et il leur semblait maintenant être pris dans le creux d'une vague gigantesque, une vague qui, de chaque côté, recourbait ses parois jusqu'à la verticale en un surplomb qui rejoignait, à 16 kilomètres au-dessus de leur tête, une arche liquide. En dépit de tout ce dont la raison, la logique, pouvait les persuader, aucun des passagers ne pouvait se défaire longtemps de la sensation que d'un instant à l'autre, ces millions de tonnes d'eau s'abattraient du ciel. Malgré cela, l'humeur d'ensemble était à l'euphorie. C'était le sentiment du danger, mais sans réel danger. À moins, bien sûr, que la mer ne leur offre d'autres surprises. Ce qui était parfaitement possible, puisque, comme Mercer l'avait deviné, l'eau s'était éveillée à la vie. Chaque centilitre contenait des milliers de micro-organismes sphériques et unicellulaires, semblables aux formes les plus archaïques de plancton qui avaient existé dans les océans de la Terre. À cette différence près, que chose étonnante, ils n'avaient pas de noyau ni même nombre des autres caractéristiques minimales des formes de vie terrestres les plus frustres. Et bien que Laura Ernst, cumulant les rôles de chercheur et de médecin, eut prouvé que les micro-organismes produisaient indubitablement de l'oxygène, ils étaient de loin trop peu nombreux pour être responsables de l'accroissement du taux de ce gaz dans l'atmosphère de Rama. Ils auraient dû se compter non par milliers, mais par milliards. Puis elle avait découvert que leur nombre, qui décroissait rapidement, devait avoir été bien plus considérable aux premières heures de l'aube raméenne, comme si s'était produite une brève explosion de vie résumant en 1 milliard de milliardième de sa durée l'histoire ancienne de la Terre. Cette vie s'était peut-être épuisée. Les micro-organismes à la dérive se désintégraient, restituant à la mer leur matériel chimique. Le docteur Laura Ernst avait averti les navigateurs que s'ils étaient obligés de recourir à la nage, ils devraient garder leur bouche fermée. Quelques gouttes n'auront aucun effet si vous les recrachez immédiatement. Mais cette affolante mixture de sel organométallique en fait un ensemble passablement toxique et je ne me vois pas en train de concocter un antidote. Par bonheur, ce danger paraissait très peu vraisemblable. La Resolution ne pouvait couler même si ses 2 flotteurs étaient crevés. Joe Calvert, à qui l'on rapportait cet avantage, avait murmuré d'un air sombre « Qu'on se rappelle le Titanic. » Et même s'ils sombraient, les gilets de sauvetage efficaces quoique grossiers leur maintiendraient la tête hors de l'eau. Laura, bien qu'elle se fût refusée à donner là-dessus un avis définitif, ne pensait pas qu'une immersion de quelques heures dans la mer cylindrique serait fatale. Simplement, elle l'a déconseillé. Après 20 minutes d'une avance régulière, New York n'était plus une terre lointaine. Elle gagnait en réalité, et des détails qu'il n'avait vus que par l'intermédiaire de télescopes et d'agrandissements photographiques se révélaient dans leur forme pleine et massive. L'évidence devenait frappante. La ville, comme tant de choses dans Rama, était de structure ternaire. Elle consistait en 3 complexes ou superstructures circulaires, identiques, qui se dressaient sur un socle ovale et allongé. Les photographies prises du moyeu indiquaient également que chaque complexe était lui-même divisé en 3 éléments égaux, comme une tarte découpée en 3 tranches de 120 degrés chacune. Cela simplifierait considérablement le travail d'exploration. Il n'aurait sans doute qu'à étudier un 9e de New York pour se faire une image de l'ensemble. Cela même serait une entreprise formidable. Il allait s'agir d'examiner au moins 1 km² de bâtiments et de mécanismes dont certains se dressaient à des centaines de mètres. Les Raméens, semblait-il, avaient poussé l'art de la triple redondance à un haut degré de perfection, comme le démontrait le système de sas, les escaliers du moyeu et les soleils artificiels. Et, chose remarquable, ils avaient franchi là une étape. New York se révélait être un exemple de la triple répétition triplée. Ruby avait mis le cap sur le complexe central, où une volée de marches menait du niveau de l'eau au faîte d'un mur ou jeté qui saignait l'île. Il y avait même une bitte bien placée à laquelle pouvaient être amarrés des bateaux. Ayant vu cela, Ruby eut de la peine à se contenir. Elle n'aurait pas de cesse qu'elle eût trouvé une des embarcations sur lesquelles les Raméens sillonnaient leur étonnante mer. Norton fut le premier à poser le pied à terre. « Attendez sur le bateau, que je sois arrivé au sommet du mur, » dit-il, se retournant vers ses compagnons. « À mon signal, Pieter et Boris me rejoindront. Ruby, vous restez à la barre pour que nous puissions démarrer sans délai. S'il m'arrive quelque chose, informez-en Karl et suivez ses consignes. Je vous laisse juge de la situation, mais attention, pas d'héroïsme. Compris ?
Compris, capitaine. Bonne chance ! »
Le commandant Norton ne croyait guère en la chance. Il ne se mêlait jamais à une situation sans en avoir analysé les paramètres ni s'être assuré un chemin de repli. Mais une fois encore, Rama le contraignait d'enfreindre ses règles favorites. Chaque élément, ou presque, de la situation ici était inconnu, aussi inconnu que l'avait été 350 ans auparavant le Pacifique et la grande barrière pour son héros. Oui, il allait pouvoir tirer parti de toutes les chances qui se présenteraient. L'escalier était pratiquement la réplique de celui qu'ils avaient descendu de l'autre côté de la mer. Nul doute que là-bas, ses compagnons le maintenaient dans la ligne de mire de leurs lunettes. Cette ligne droite virtuelle était pour une fois réalisée, car dans cette direction, et celle-là seulement, parallèle à l'axe de Rama, la mer était d'une planitude absolue. Après tout, c'était peut-être la seule étendue d'eau de tout l'univers pour laquelle ce terme fut exact, car sur tous les autres mondes, les mers, le moindre lac, devaient épouser une surface sphérique, d'une courbure égale dans toutes les directions. J'approche du sommet, annonça-t-il à l'intention de l'enregistrement de mission et de son second, qui à 5 km de là l'écoutait intensément. Rien encore à signaler. La radiation est normale. Je tiens le détecteur au-dessus de ma tête, au cas où ce mur servirait de bouclier contre je ne sais quoi. Et s'il y a des êtres hostiles de l'autre côté, c'est là-dessus qu'ils tireront en premier. Bien sûr, il plaisantait. Et pourtant, pourquoi, en effet, prendre des risques puisqu'il était si facile de les éviter? Lorsqu'il gravit la dernière marche, il vit que le sommet de la digue était large d'une dizaine de mètres et plat. De l'autre côté, des séries alternées de rampes et d'escaliers qui rejoignaient le niveau de la ville 20 mètres plus bas. Il se tenait en effet sur une haute muraille qui ceignait complètement New York et lui permettait d'en avoir une vue totale. Totale, mais vertigineuse de complexité. Et son premier geste fut de la détailler par un lent panoramique de sa caméra. Puis, il fit le signal convenu à ses compagnons et annonça par radio à l'autre rive de la mer « Aucun signe d'activité et pas un bruit. Vous pouvez monter vous autres, nous allons commencer l'exploration. »